Bonjour, mon nom est Michel Pion, président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au balado humaniste. J'espère que vous avez tous passé un bel été et content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Richard Rousseau, qui vient de publier à compte d'auteur un ouvrage très intéressant intitulé « Une brève histoire de l'humain et de son indissociable boulet, le divin ». M. Rousseau est un physicien qui a développé dans le cadre d'une thèse de doctorat une méthode d'analyse par fluorescence des rayons X. Il a travaillé pendant 37 ans à la Commission géologique du Canada à Ottawa au dosage des roches. Pour faire connaître cette méthode, il a enseigné dans plusieurs universités, publié plus d'une trentaine d'articles scientifiques et a beaucoup voyagé partout à travers le monde. Il est marié, père de 3 enfants, grand-père de 4 petits-enfants et a aussi un chien. Et finalement, nous sommes fiers de le compter parmi nos membres à l'Association humaniste du Québec. Alors, bonjour M. Rousseau, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Michel, c'est avec un grand plaisir que j'accepte cette invitation à présenter, à venir faire avec toi un balado humaniste. C'est un grand honneur pour moi et je t'en remercie infiniment.
Je vous en prie mon cher monsieur, ça nous fait plaisir. Ma première question, et non la moindre, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel livre sur l'histoire de l'humanité?
Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire un tel livre? Eh bien, très tôt dans mon enfance, j'avais une curiosité insatiable pour tout ce qui m'entourait. Je voulais tout connaître. Je voulais connaître, entre autres, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, le monde physique. Et y compris l'être humain. Pendant mes études, du primaire à l'université, qui ont été très longues, j'ai essayé d'approfondir la connaissance du monde qui m'entourait. À la retraite, à l'âge de 72 ans, après une carrière scientifique très intense, après avoir voyagé partout à travers la planète, aux quatre coins de la planète, je me suis dit, pourquoi ne pas faire partager ces connaissances avec mon entourage? Je me suis donc mis à écrire un livre et aujourd'hui, je vous le présente.
Les premiers chapitres de votre livre portent sur l'origine de l'univers. Puis, je dois dire personnellement que c'est une des meilleures explications que j'ai lues. C'est expliqué dans des termes que même un non-scientifique comme moi arrive à saisir. Est-ce que c'est important pour vous de commencer par cette explication pour débuter l'histoire de l'humanité? Et si oui, pourquoi?
D'abord, merci pour le compliment. C'est très agréable à entendre. Lorsque tu décides de raconter l'histoire de l'humanité, tu dois choisir à quel moment tu veux la débuter. Tu peux choisir, par exemple, de commencer lors des premières découvertes scientifiques avec Galilée. Tu peux choisir le début à partir d'il y a 12 000 ans, lorsque l'homme est devenu de chasseur, cueilleur, nomade, et passé de agriculteur, éleveur, sédentaire. Ça pourrait être un excellent début. Ou tu peux commencer ton histoire à partir d'il y a 200 000 ans, lorsque l'Homo sapiens est apparu sur la planète Terre. Ou encore plus loin, tu peux commencer à partir du moment où la vie est apparue sur la Terre il y a 550 millions d'années. Mais voilà, je suis scientifique. Alors, à cause de cette formation, j'avais envie de commencer de reculer un peu plus loin dans le temps. On pourrait reculer jusqu'au début où la Terre est apparue, il y a 4,55 milliards d'années. Mais pourquoi ne pas reculer encore un peu plus loin, et reculer jusqu'au moment où les atomes de l'espèce humaine sur la Terre ont été créés, c'est-à-dire peu de temps après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Et si on commence cette histoire à partir de cette époque, ça me semble plus intéressant et plus complet. Alors voilà, c'est ce que le livre raconte.
Plusieurs croyants affirment que le Big Bang aurait été causé par une divinité quelconque. Vous en pensez quoi, vous?
Nos connaissances scientifiques, à l'heure actuelle, nous permettent de reculer, parce qu'on sait que l'univers est en expansion. Alors, si on recule dans le temps, on peut reculer jusqu'à 10 moins 43 secondes. moins 43. Ça fait beaucoup de zéros après le, à droite du chiffre. 10 à la moins 43 secondes. Mais après, on ne peut plus reculer. On frappe un mur qu'on appelle le mur de Planck. Nos connaissances ne nous permettent pas d'aller plus loin. Tout ce qu'on peut dire, lorsqu'on recule jusqu'à ce moment-là, c'est que l'univers était très dense, très chaud et très lumineux. C'est par erreur, c'est faux de dire, d'assimiler cette période à une gigantesque explosion qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. L'expression est restée. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ce fameux Big Bang? On l'ignore. Comment parler d'un avant Big Bang puisque le temps n'existe plus? Parce qu'au partir du moment, non seulement nos connaissances scientifiques s'arrêtent, les lois de la physique s'arrêtent là, à partir de ce moment-là, mais aussi le temps et l'espace. C'est difficile à concevoir, mais d'après les équations d'Einstein, justement, c'est que à partir du Big Bang, le temps, l'espace et les lois de la physique s'arrêtent. Alors, on ne peut pas parler d'un avant Big Bang. Le temps est arrêté. Alors, ni les scientifiques, ni les croyants ne peuvent faire des affirmations. Tout n'est que spéculation. Ceux qui se permettent de faire des affirmations, ce n'est que spéculation qu'ils se le tiennent pour dire.
La seconde partie du livre parle de la naissance de l'Homo sapiens. Vous mentionnez qu'un des déclencheurs principaux de l'évolution de l'humain a été les débuts de l'agriculture. Pourquoi est-ce que vous dites ça?
Voici, si on recule de 200 000 ans, l'Homo sapiens a réussi à survivre de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Il était un très habile chasseur. Pourquoi? Parce que le gibier était en abondance et pendant 200 000 ans, on apprend à devenir un très bon chasseur. La preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour le confirmer. Mais depuis à peine 12 000 ans, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin d'une période de glaciation, il y a peu ou pas d'animaux à chasser. Ils sont tous morts faute de nourriture fourragère, laquelle nourriture a été enfouie sur les glaces. L'humain meurt de faim, sa survie est en péril. Il s'assoit par terre, regarde autour de lui, commence à manger plantes et racines, parce qu'il n'y avait pas autre chose pour manger. Et là, il en découvre une. Il découvre une plante qu'on appelle l'engrais. L'engrais est une sorte de blé rustique, comestible, panifiable. Panifiable veut dire qu'on peut faire du pain. C'est ce qui lui a permis de survivre. Mais pour pouvoir planter le, pour consommer le blé, il faut qu'il reste sur place, qu'il commence à le semer, et ce faisant, il devient sédentaire. De nomade qu'il était, il devient sédentaire. Il commence à vivre dans des petits villages. Il construit maison, développe des champs de récolte de blé. La population augmente graduellement, comparé à l'époque où il était chasseur-cueilleur, où les humains vivaient en clans, en petits groupes. Puis avec le temps, les villages deviendront des villes. Des méthodes efficaces d'irrigation seront développées pour produire des récoltes abondantes. Les premières civilisations apparaissent il y a à peine 5500 ans. Elles développent même à cette époque l'écriture, il y a 5500 ans, pour raconter l'histoire. Il suffit de penser à Sumer, à Babylone, l'Égypte, qui date de cette époque. Puis, pendant les deux derniers millénaires, l'humain ne cesse de s'établir partout sur la planète, ne cesse d'accumuler des connaissances pour se nourrir et se soigner, ne cesse de passer de découverte en découverte pour améliorer sa qualité de vie. Puis, en plus de ça, il va finir par trouver, très récemment, des moyens efficaces pour réduire sensiblement toutes les guerres. Alors, à partir d'aujourd'hui, il commence aussi à explorer l'espace. On peut dire que c'est un survivant. Aujourd'hui, avec une population mondiale de 7,8 milliards d'habitants, on peut dire qu'il a survécu.
Je vous connais assez pour savoir que vous vous définissez comme un athée. Je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce qui explique la partie de l'indissociable boulet dans votre livre?
Bonne question. Après avoir été l'humain, après avoir été chasseur-cueilleur nomade pendant 200 000 ans, après avoir été agriculteur-éleveur sédentaire pendant 12 000 ans, c'est à partir de ce moment qu'il découvre, parce qu'étant sédentaire, il développe l'agriculture, il devient une victime des cataclysmes naturels sur lesquels il n'a aucun contrôle. Sécheresse, inondation, incendie, séisme, épidémie d'essic, tornade, etc. Il n'a aucun contrôle sur tout ça. Puis en plus de ça, étant vivant dans des villes toujours de plus en plus grosses, il devient la proie de maladies et les guerres de les voisins qui enviaient lorsqu'un pays, un village devenait trop prospère, ça créait l'envie de ses voisins et les voisins les attaquaient. Les guerres, il était victime finalement de la famine, des guerres et des maladies. Alors, il découvre ça subitement, pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les bras au ciel parce qu'il était très démuni. Il souffrait beaucoup, sa survie était en danger. Il lève les bras au ciel et qu'est-ce qu'il invente? Il invente des divinités pour le protéger. Mais la plupart du temps, il réalise très vite que les divinités sont peu efficaces. En fait, on peut dire qu'elles sont d'éternelles absentes. Malgré tout, n'ayant pas d'autre moyen de survivre, l'humain s'accroche à ce boulet. C'est là que j'ai introduit le mot boulet. Faute de mieux, en désespoir de cause. Et il traînera ce boulet jusqu'à récemment, depuis 12 000 ans. Mais graduellement, avec le temps, ce sont les connaissances scientifiques et non les divinités qui viendront réduire sensiblement les trois principaux fléaux de l'humanité: famine, maladie, guerre. Également, les relations humaines, il va développer l'humanisme qui viendra faire la promotion des valeurs humaines. Les valeurs humaines: amour, amitié, solidarité, démocratie, famille. Sans l'aide d'aucune divinité. L'humaniste, on peut vivre de tout ça sans l'aide d'aucune divinité. Elles deviennent superflues. C'est ça, être raté. C'est de croire que les divinités sont complètement inutiles.
Mais à ce moment-là, comment est-ce que vous expliquez que malgré les avancées technologiques, là, vous venez d'en parler, et scientifiques, les religions gardent encore une si grande place chez la race humaine?
Excellente question à nouveau. Lorsqu'un enfant vient au monde, les premières choses que ses parents lui apprennent sont la langue, la culture et une religion. Si les parents sont croyants, l'enfant va apprendre des concepts religieux qu'il ne comprend absolument pas, des concepts très abstraits qu'il va apprendre sur les genoux de sa mère. Ces concepts-là s'imprègnent fortement dans son subconscient. Ces concepts-là deviennent inoubliables. L'humain ne sera plus capable de s'en défaire. C'est le cas de 90 % de la population mondiale. Ce n'est que par l'éducation, dès le primaire, que les enfants finiront par se libérer de cet endoctrinement. Ils vont se libérer par l'enseignement des connaissances scientifiques, de l'humanisme, de la laïcité et de l'athéisme. Par l'enseignement de la véritable histoire des religions, montrant qu'elles sont en fin de compte que des chimères. Par chimère, je veux dire des fabulations fantaisistes.
Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dirait, par exemple, que le divin représente un réconfort pour lui ou pour elle?
Bon, je lui répondrais que, tout simplement, c'est absolument normal. L'humain aime reproduire à l'âge adulte, on s'entend, à l'âge adulte, le besoin essentiel de protection de l'enfance fourni par ses parents. Pour l'enfant, les parents étaient des géants, tout puissant à ses yeux. Alors l'adulte remplace les parents de l'enfance par des divinités, toujours des géants tout puissants, mais cette fois-ci fictives. Seule l'éducation finira par le sortir de cette croyance absurde, voulant que des personnages mythiques peuvent lui venir en aide dans les moments difficiles. Avec le temps, il apprendra que les connaissances scientifiques et l'humanisme peuvent remplacer avantageusement les divinités. Une autre forme de vie après la mort, ce n'est pas nécessaire. Qu'une vie terrestre bien remplie est nettement suffisante pour combler tous ses besoins charnels et spirituels.
Les derniers chapitres de votre livre parlent également des avancées technologiques, vous avez glissé un mot tantôt, des découvertes de Darwin, de la révolution industrielle en passant par l'invention du rock'n'roll et le développement des technologies informatiques. Si vous aviez à choisir la plus importante selon vous, ce serait laquelle?
Alors pour moi, la plus importante de toutes les découvertes que l'humain a faites jusqu'à maintenant, c'est celle faite par Edwin Hubble en 1929, lorsqu'il a découvert que l'univers était en expansion. C'est la plus importante parce que c'est à partir de cette découverte qu'on a commencé à comprendre dans quelle sorte de monde nous vivons, d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons.
Après tout ça, là, qu'est-ce que vous pensez, vous personnellement, qu'il va advenir de la race humaine? D'après vous, est-ce qu'elle va survivre ou se détruire elle-même? À ce niveau-là, est-ce que vous êtes un optimiste ou un pessimiste?
Bonne question pour finir. Personnellement, je ne pense pas que c'est l'humain qui va détruire la planète Terre. Pour l'humain, la Terre, je ne pense pas que c'est l'humain qui va détruire la planète Terre. La planète Terre en a le but bien d'autres. Rappelons qu'elle a connu jusqu'à maintenant, depuis sa naissance, 5 extinctions massives. Une extinction massive, c'est une période de quelques millions d'années au cours de laquelle au moins 75% des espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent. On en a connu 5. On est peut-être en train d'en vivre une 6e. On ne sait pas. Peut-être que j'ose espérer que non. On n'a pas encore atteint le point de non-retour. Espérons qu'on ne l'atteindra jamais. Mais pour revenir à la question, l'humain, la Terre est sa seule maison et il y tient. Par contre, ce qui va détruire la Terre, c'est le soleil. Ce n'est pas l'humain, c'est le soleil. Dans environ 1 milliard d'années, dans environ 1 milliard d'années, le soleil va devenir tellement chaud que toute l'eau des océans sur la planète Terre va s'évaporer. Aucune vie va devenir possible sur la planète Terre, exactement comme Vénus et Mars à l'heure actuelle. Alors, à ce moment-là, l'humain va être obligé de migrer vers d'autres planètes, probablement sous la forme d'un humanoïde. La biologie basée sur le carbone n'est pas faite pour voyager dans l'espace. Elle est trop complexe, trop fragile, trop éphémère. Ce n'est pas le cas de l'intelligence artificielle. Aha! Et aujourd'hui, on est en train de commencer à se préparer à cet événement. Comment? Le télescope spatial James Webb. Il est en train de découvrir l'univers. Il est en train de découvrir les exoplanètes où la vie sera possible. Et quand une planète où la vie va être possible va être découverte, d'ici, on va être généreux, d'ici, disons, 200 ans, l'humain va envoyer un vaisseau spatial contrôlé par l'intelligence humaine pour aller vérifier si la vie est possible sur cette exoplanète-là. Et ainsi, lorsque viendra le moment, l'humain aura une adresse où déménager. Et il sera prêt à le faire à ce moment-là. Voilà.
C'est intéressant. Malheureusement, on ne sera pas là pour le voir, mais...
Non, je ne pense pas qu'on soit là pour le voir.
Mais on va souhaiter ça pour le reste de l'humanité.
Oui.
Alors, écoutez, merci beaucoup, M. Rousseau. C'est très intéressant de causer avec vous. J'encourage les gens à lire votre livre, qui est très, très intéressant. Si on veut se le procurer, comment est-ce qu'on fait?
On peut aller sur le site, il est vendu dans une boutique en ligne qui s'appelle boutique.bouquinbec.ca. Et vous tapez Richard Rousseau et vous allez avoir l'adresse d'aller découvrir les deux livres, parce que j'en ai écrit deux finalement, et puis ils sont vendus par cette boutique en ligne.
D'accord, alors je vais mettre un lien sur la description du balado, pour les gens qui seraient intéressés à en faire l'acquisition. Encore une fois, M. Rousseau, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer.
C'était très amable de ta part et c'est moi qui te remercie beaucoup. Ça fait un plaisir.
Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web qui est assohum.org, assohum.org, ou encore sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Merci et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.